Voilà, bonjour à tous. Laissez-moi aussi encore vous accueillir ce matin. Si vous n'étiez pas là la dernière fois que j'ai prêché, il y a quelques semaines, vous ne le savez pas, on a commencé une étude de l'épître aux Philippiens. Hein, c'est ce qu'on fait, on prêche en suivant des livres de la Bible. Et le livre que j'ai choisi, c'est l'épître aux Philippiens, une lettre que Paul a écrite à une église qu'il avait lui-même implantée. Il est en prison, Paul est en prison, et il écrit à cette église. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles à cette lettre, l'épître aux Philippiens. Et on va commencer la lecture au chapitre 1, verset 12. On avait regardé la dernière fois l'introduction à la lettre, les 11 premiers versets. Et aujourd'hui, on va lire à partir du verset 12, et je m'arrêterai au verset 25. Voilà donc Philippiens, chapitre 1, à partir du verset 12. C'est Paul qui écrit à cette église et il leur dit: Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Et Paul parle ensuite de deux groupes ici. Il commence en disant: Certains, premier groupe, il est vrai, proclament Christ par jalousie et avec un esprit de rivalité. Mais d'autres, deuxième groupe, le proclament avec de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Alors que le premier groupe dont on a parlé, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures. Ils pensent augmenter les souffrances de mes chaînes. Qu'importe. De toute manière, que ce soit sous un faux prétexte, ou que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié ou exalté dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Cependant, et là le cependant, il suit ce que Paul vient de dire, donc mourir est un gain. Cependant, s'il est utile pour mon œuvre que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et que je demeurerai avec vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Voilà, jusqu'ici. Cette lecture, il y a beaucoup de choses, c'est un texte très riche, et je vais passer sur beaucoup de détails assez rapidement, mais j'espère qu'on va pouvoir retirer quand même quelque chose pour nos vies de ce passage-là. Je pense que certains d'entre vous le savent, je suis libraire de profession, c'est la formation que j'ai faite, et j'ai travaillé plusieurs années en librairie, Une des choses assez drôles, un phénomène observable dans le monde du livre, c'est que lorsqu'un éditeur a trouvé une bonne idée et qu'il publie un livre qui marche bien, hein, qui se vend bien, tout d'un coup vous avez une explosion de titres qui sortent avec un titre à peu près pareil, qui ressemble, qui est très proche ou avec la même couverture ou comme ça. Vous le voyez peut-être si vous allez en librairie là pour Noël, vous avez beaucoup de coffrets. Cadeau que vous pouvez offrir avec un livre de recettes pour des pizzas et un truc pour couper les pizzas avec ou des choses comme ça. Il y a 5 ans, ça n'existait pas, ces choses-là. Il y en a un qui a eu l'idée de le faire et maintenant tout le monde le fait. Et je me rappelle, il y a quelques années, il y a un livre qui est sorti et qui s'intitulait 100 choses à faire avant de mourir. C'est un livre qui donnait voilà, des idées à ceux qui n'ont pas beaucoup d'imagination de quelles sont les choses absolument nécessaires à faire avant de mourir. Et puis il y a une explosion de livres un peu pareil. Voilà, vous pouvez imaginer 50 recettes à faire avant de mourir. 10 voyages à faire avant de mourir, etc. Et en lisant le passage de ce matin, je me suis dit, et si on réduisait ces 100 choses à faire à une seule? Une chose à faire avant de mourir. S'il y avait une chose à faire avant de mourir, quelle serait-elle? Avant de mourir, je veux trois petits points. Qu'est-ce que vous diriez? Comment est-ce que vous termineriez cette phrase? Avant de mourir, je veux. On arrive dans cette lettre aux Philippiens à l'un des passages les plus intimes peut-être de cette lettre, qui est en fait déjà la lettre la plus personnelle de Paul. Il est en prison, je l'ai dit, et c'est très marqué dans ce passage parce qu'à trois reprises, Paul parle de ses chaînes. Il est peut-être à Rome, on ne sait pas bien, après qu'il ait fait appel à l'empereur, peut-être qu'il est là dans l'attente de comparaître devant l'empereur. On ne sait pas très bien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est dans l'attente de son procès. Il est dans l'attente de comparaître devant les autorités romaines. Et dans l'attente de son procès, il écrit à cette église de Philippe, une église qui était très proche de lui, très proche de son cœur, et il leur dit, avant de mourir, je veux trois petits points. Et je me suis dit, et si moi je devais terminer cette phrase, comment est-ce que je la terminerais? Et si vous deviez terminer cette phrase, comment est-ce que vous la terminerez? Avant de mourir, je veux finir le lycée. Je veux marier telle ou telle personne. Avant de mourir, j'ai envie de voir mes enfants grandir, j'ai envie de les voir se tourner à Christ. Avant de mourir, j'ai envie de connaître le succès dans mon travail, j'ai envie d'être heureux. Qu'est-ce que vous diriez? S'il y avait une chose à faire avant de mourir, quelle serait-elle? Ici, dans ces versets, Paul nous dit, avant de mourir, je veux exalter, glorifier Christ dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Voilà comment Paul termine cette phrase. Et cette manière avec laquelle il termine la phrase que j'ai donnée avant de mourir, je veux, cette réponse que Paul donne est visible à la manière dont Paul porte un regard sur le passé, sur l'avenir et sur le présent. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va simplement porter un regard avec Paul sur le passé. C'est les versets 12 à 18, ensuite on portera un regard sur l'avenir, les versets 19 et 20, et on terminera avec un regard sur le présent, les versets 21 à 25. Tout d'abord, un regard sur le passé, versets 12 à 18. Imaginez que vous avez un ami qui se porte, qui soit malade ou qui passe par des difficultés, et vous recevez une lettre ou un email de cette personne. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Vous aimeriez savoir comment cette personne va, n'est-ce pas? Vous aimeriez avoir des nouvelles de cette personne. Et certainement que c'était pareil pour les Philippiens. Ils étaient très proches de Paul, ils avaient entendu que Paul était en prison, ils avaient rassemblé de l'argent, peut-être des vêtements, ils avaient envoyé ça en cadeau comme soutien pour Paul en prison, et ils reçoivent maintenant cette lettre qui est devant nous, qui est une lettre de remerciement de Paul. Et certainement qu'après cette longue introduction qu'on avait vue la dernière fois, ils s'attendent à ce que Paul parle de lui-même, qu'il leur dise comment il va, qu'ils leur disent à quoi ressemble une journée type en prison, quels sont ses besoins, qu'il leur parle de lui-même. Mais regardez au verset 12, Paul ne parle pas de tout ça. Verset 12, il dit « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Si vous regardez maintenant tout à la fin du passage qu'on a lu, verset 25, Paul termine cette section en disant « J'en suis persuadé, je le sais, je resterai, je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. » Et vous voyez, on a un peu comme deux parenthèses au début et à la fin de notre passage. Paul, on pourrait dire sous couvert de parler de lui-même, sous couvert de parler de sa situation, nous parle en fait complètement d'autre chose. Il nous parle du progrès de l'Évangile. Et il y a un petit mot que Paul utilise, qui nous semble totalement insignifiant, mais qui est très important. Il est important qu'on le relève. Au verset 12, Paul utilise un petit mot, regardez. Il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Plutôt. C'est un petit mot insignifiant, mais qui est important. Il est important qu'on le relève, parce que ça dénote que les Philippiens auraient pu penser que l'emprisonnement de Paul serait néfaste pour le progrès de l'Évangile. Mais Paul leur dit que, paradoxalement, son emprisonnement a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et Paul donne deux paradoxes dans ces versets. Regardez d'abord le premier paradoxe que Paul met en lumière au verset 3 et, 13 et 14, pardon. C'est que l'Évangile ne progresse pas malgré, mais au travers de l'adversité. Versets 13 et 14. Paul dit, en effet, dans tout le prétoire, c'est-à-dire dans toute la garde impériale, dans tous les soldats qui étaient chargés de garder les prisonniers, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Paul, ici, dans ces versets, montre que de deux manières différentes, l'adversité qu'il a rencontrée, son emprisonnement, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Tout d'abord, verset 13, « Grâce à son emprisonnement, tous les soldats, toute la garde, a entendu parler de Christ. » Et deuxièmement, verset 14, « Grâce à son emprisonnement, par son exemple, d'autres personnes ont été encouragées à annoncer sans crainte la parole de Dieu. » On ne sait pas exactement dans quelles circonstances Paul était en prison, on ne peut pas tellement le deviner ici, mais on peut imaginer de ce qu'on lit et de ce qu'on connaît du livre des Actes, par exemple, que Paul devait être enchaîné à des gardes à longueur de journée. Et vous pouvez très bien vous imaginer qu'au final, ce n'était pas tellement Paul qui était prisonnier des gardes, mais c'était les gardes qui étaient prisonniers de Paul et qui étaient obligés de l'écouter parler de l'Évangile à longueur de journée. C'était vraiment certainement ça qui se passait, et que de cette manière-là, tout le prétoire, toute la garde, d'une manière ou d'une autre, a entendu parler de Christ. Voilà le premier paradoxe que Paul met en lumière. L'adversité, son emprisonnement, n'a pas empêché, n'a pas gêné le progrès de l'Évangile, mais au contraire, c'est au travers de l'adversité que l'Évangile progresse. Il y aura certainement beaucoup de choses qu'on pourrait tirer de ça pour nous. Réfléchir à qu'est-ce que ça change pour nous de savoir que l'Évangile progresse au travers de l'adversité. Mais moi, je vais passer à regarder le deuxième paradoxe que Paul tire ici. Il nous montre un deuxième paradoxe au verset 15 et 16. Il nous montre que l'Évangile progresse malgré les mauvaises intentions de certains. Regardez verset 15. Certains, il est vrai, Paul parle d'un premier groupe, certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie et avec un esprit de rivalité. Mais d'autres, deuxième groupe, le proclament avec de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour. sachant que je suis établi, et littéralement c'est sachant que je suis là, c'est-à-dire sachant que je suis en prison, pour la défense de l'évangile. Ils savent que je suis en prison à cause de l'évangile, pas pour des mauvaises raisons, et donc ils ne veulent pas me décourager. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors que le premier groupe, verset 17, ceux qui sont jaloux, ceux-là animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures. Ils pensent augmenter les souffrances de mes chaînes. Et littéralement, l'expression que Paul utilise ici, c'est ils pensent alourdir mes chaînes. Comme si les chaînes de Paul n'étaient pas déjà assez lourdes. Ils pensent alourdir mes chaînes, me décourager. Mais est-ce que Paul est découragé? Regardez le verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'importe! Qu'importe! Qu'importe leur mauvaise motivation, qu'importe leur désir d'alourdir mes chaînes, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit sincèrement, Christ est proclamé. Voilà deux paradoxes que Paul met en lumière dans ses premiers versets. Paradoxalement, c'est au travers de l'adversité que Christ est proclamé. Il est proclamé paradoxalement par des hommes et des femmes comme vous et moi qui sont faibles et pécheurs et qui ont parfois des mauvaises motivations pour proclamer Christ. Et voyez, alors que Paul pose un regard sur le passé avant de penser à ce qu'il attend et avant de penser au présent, alors que Paul pose un regard sur le passé, sur l'adversité qu'il a connue, sur son emprisonnement, sur la rivalité des autres croyants, Paul peut dire à la fin du verset 18, je me réjouis et je me réjouirai encore. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Comment est-ce que Paul peut dire je me réjouis lorsqu'il pense à toute cette adversité? Comment est-ce qu'il peut dire je me réjouis, je me réjouirai encore? C'est parce qu'il a compris que ce qui est un paradoxe pour nous n'en est pas un pour Dieu. Je trouve que c'est vraiment important qu'on relève ça dans ce passage-là. C'est vraiment encourageant pour nous de voir que ce qui est un paradoxe, ou ce qui semble être un paradoxe pour nous, n'en est pas un pour Dieu. Dieu se plaît à utiliser des hommes et des femmes faibles et pécheurs, qui ont parfois des mauvaises motivations pour proclamer Christ. Dieu se plaît à utiliser même nos circonstances les plus difficiles pour l'avancement de son royaume, et parce que c'est ainsi que la gloire revient à Christ. Avant de mourir, je veux glorifier Christ dans mon corps, que ce soit par ma vie, que ce soit par ma mort. Voilà la préoccupation principale de Paul, et voilà pourquoi il peut dire, même en pensant à toute l'adversité qu'il a connue, je me réjouis et je me réjouirai encore. Notez maintenant que Paul parle tout d'un coup au futur. Je me réjouirai encore. Il tourne son regard du passé pour regarder à l'avenir, regarder à ce qu'il attend. Et ce qu'on va faire maintenant, je propose qu'on regarde les versets 19 et 20, qu'on pose un regard avec Paul sur l'avenir. Regardez les versets 19 et 20. Je commence ma lecture en fait à la fin du verset 18. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela. Et là, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par cela. Quand il dit cela, il fait référence à son procès, hein, à ce qu'il attend lorsqu'il va comparaître devant les autorités. Car je sais que cela tournera à mon salut. Et le mot pour salut est le même que pour délivrance. C'est le même mot. Et je dis ça pour vous montrer qu'il y a une ambiguïté dans le passage. Paul est en train de dire, je sais que mon procès tournera à ma délivrance. Et on va voir qu'est-ce qu'il veut dire dans un instant, d'accord? Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Regardez encore une fois le verset 19. Quand Paul dit ici que cela tournera à mon salut ou à ma délivrance, je suis convaincu qu'il n'est pas en train de parler de l'issue du procès. D'accord, c'est vraiment important qu'on comprenne ça. Parce que dans une première lecture, on pourrait avoir l'impression qu'il est en train de dire « Grâce à vos prières et à l'aide du Saint-Esprit, mon procès tournera à ma libération. » On pourrait avoir cette impression-là si on lit dans une première lecture. Mais je ne crois pas qu'il est en train de dire ça. Pour deux raisons. La première, c'est que si vous regardez à la fin du verset 20, qu'on vient de lire, vous verrez que Paul dit « Soit par ma vie, soit par ma mort. » Il est conscient que son procès peut aller dans les deux sens. Il est conscient que son procès peut mal tourner. Soit par ma vie, est-ce que je vais être relâché, soit par ma mort, est-ce que je vais être exécuté. Il est conscient que le procès peut aller dans les deux directions, mais il est certain qu'il expérimentera cette délivrance, quoi qu'il advienne, quelle que soit l'issue du procès. Voilà la première raison pour laquelle je ne pense pas que Paul parle de sa libération au début du verset 19. Et la deuxième raison, et ça vous ne pouvez pas le voir, c'est que Paul, ici, cite l'Ancien Testament. Il cite le livre de Job, il fait une allusion en tout cas au livre de Job, dans un passage où clairement Job fait référence non pas à une délivrance physique ou temporelle, mais il fait référence à la délivrance ou le salut devant le tribunal céleste, pas devant un tribunal humain. Regardez avec moi en Job, tournez vite, on va pas faire très long, mais venez voir avec moi dans le livre de Job, au chapitre 13. Job, chapitre 13, à partir du verset 13. Vous connaissez sûrement l'histoire, hein. Job était cet homme très riche qui en un instant a tout perdu, sa famille, ses biens, sa réputation. Et puis il est seul, ses amis viennent le voir pour lui donner des conseils. Et au chapitre 13, verset 13, Job leur répond et voilà ce qu'il dit. « Taisez-vous, laissez-moi, c'est moi qui veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. » Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents et mettrais-je ma vie dans ma main? Même s'il voulait me tuer, sous-entendu, même si Dieu voulait me tuer, je m'attendrai à lui. Oui, devant lui, je défendrai ma conduite. Et c'est là que on a le passage verset 16, le passage que Paul cite. Aussi, cela tournera à mon salut. Vous voyez, clairement, dans ce contexte-là, Job ne peut pas être en train de parler d'une délivrance qui est physique ou temporelle, parce qu'il dit « Même si Dieu me tue, je m'attendrai encore à lui et cela tournera à mon salut. » Et ces mots de Job résonnent très fortement avec les mots de Paul qui dit « Soit par ma vie, soit par ma mort, cela tournera à mon salut. » Et donc ce qui est très clair, et c'est important qu'on comprenne ça, c'est que Paul, en s'adressant aux Philippiens ici, il n'est pas en train de leur dire « S'il vous plaît, priez pour moi pour que je puisse être libéré de prison. » Mais il est en train de leur dire « Priez pour moi pour que, par l'aide du Saint-Esprit, je puisse parler pour Christ et proclamer Christ avec assurance lorsque je comparaîtrai devant mon tribunal et qu'ainsi... lorsque je verrai Christ au dernier jour, cela tourne à mon salut, et que j'ai honte de rien. » Voilà ce que Paul demande aux Philippiens. Et je crois qu'il nous pose un réel défi ici, n'est-ce pas ? Parce que si on réfléchit dans les mots qu'il utilise, il y a, d'une part, il n'y a aucun apitoiement sur lui-même, À aucun moment, il est en train de dire, écoutez, la vie en prison, elle est un peu rude quand même. Vous pouvez pas m'envoyer une couverture ou une tasse de café. Il n'y a aucun apitoiement sur lui-même. Il n'est pas en train de leur demander non plus, prier pour ma libération, non. D'une part, aucun apitoiement sur lui-même, et d'autre part, il n'y a pas une tentative chez Paul d'essayer d'édulcorer un peu son message, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas en train de se dire, bon, peut-être que je ferais mieux de pas dire ça, et peut-être un peu de me la coincer pendant mon procès, être sûr que je ne crée pas de problème, et là je vais être libéré. Il fait exactement l'inverse. Il demande aux Philippiens, priez pour moi, pour que lorsque je serai devant les hommes, je parle avec assurance, avec hardiesse, et que je tienne ferme pour Christ. La préoccupation principale de Paul, c'est que quoi qu'il advienne, Christ soit glorifié dans son corps, soit par sa vie, soit par sa mort. Je crois qu'il y a un vrai défi pour nous ici, comme j'ai dit. Quelle serait ma préoccupation principale dans ces circonstances-là? Quelle est ma préoccupation principale dans mon quotidien, dans le quotidien de mes journées, dans mes contacts au travail, que ce soit aussi, sinon avec ma famille? Ceux d'entre vous qui étaient là mercredi, vous vous souvenez peut-être que Caroline a dit qu'elle a discuté avec un de ses élèves par rapport à la foi cette semaine. Et on a eu un peu une petite discussion où on parlait des risques voilà, du rejet qu'on peut expérimenter si on parle ouvertement de Christ dans un contexte qui se veut clairement laïque. Quelle est ma préoccupation dans cette situation? Vous pouvez penser certainement à d'autres situations qui vous touchent plus personnellement. Est-ce que ma préoccupation principale, c'est mon confort? Surtout ne pas me créer trop d'ennuis. Est-ce que ma préoccupation principale, c'est ma réputation? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Paul ici ne se préoccupe pas de ce que les gens vont penser de lui. Il se préoccupe pas non plus de ce qui se passera après. Sa préoccupation principale, c'est que en toute chose, quoi qu'il advienne, Christ soit glorifié, soit par sa vie, soit par sa mort. J'imagine que j'arrive à penser ce que vous êtes peut-être en train de vous dire dans votre tête. Vous êtes en train de vous dire, peut-être, que, ok, c'est facile pour Paul de dire ça. Parce que il va mourir de toute façon. Enfin, c'est facile pour Paul de dire, avant de mourir, je veux glorifier Christ dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort, parce qu'il est sur le point de mourir de toute façon, il a tout perdu. C'est facile pour Job de dire ça, parce qu'il a perdu sa famille, il a perdu ses biens, il a perdu sa réputation. C'est facile pour Paul de dire ça. C'est autre chose pour nous. Mais je crois que les versets suivants nous montrent que c'est faux de penser ça, parce que l'attitude de Paul, et c'est ce qu'on va regarder maintenant en tournant nos regards vers le présent, l'attitude de Paul reste la même, qu'il meure ou qu'il vive. En fait, pour être même plus précis, dans les versets suivants, Paul anticipe sa libération. Et il se dit pas, bon, avant de mourir, je veux glorifier Christ dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort, parce que de toute façon, je suis sur le point d'être exécuté. Mais par contre, si je suis libéré, alors là, c'est une autre histoire. Je prévois aller faire le tour du Mont-Blanc. Je prévois me marier avec telle ou telle personne. Je prévois reprendre ma carrière d'avocat, ce qu'il était d'ailleurs. Il ne dit pas ça. Il anticipe sa libération et sa préoccupation principale reste la même. Avant de mourir, je veux glorifier Christ dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Ce que je vous propose qu'on regarde rapidement maintenant, c'est dernièrement un regard sur le présent, les versets 21 à 25. Verset 21. Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Je ne sais pas si vous allez vous identifier à moi là-dessus, mais je pense que pendant des années, je n'avais pas du tout compris ce verset. Pendant des années, je n'avais pas du tout compris ce que Paul voulait dire par là. Et il a fallu que je tombe sur cet homme-là pour comprendre un peu mieux. Je ne suis pas en train de dire que j'ai tout compris, mais je pense qu'il m'a aidé un tout petit peu mieux à comprendre ce que Paul veut dire ici. Donc je vais vous lire ça, c'est Adolphe Monod, qui était un des grands prédicateurs du réveil au XIXe siècle en France. Et ce livre, Les Adieux, c'est une compilation de méditations qu'il a fait alors qu'il était sur son lit de mort. Et il y en a une sur ce verset, Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, c'est un gain. Et voilà ce qu'il dit. Il écrit, L'apôtre se demande s'il vaut mieux pour lui vivre ou mourir. Cette question s'est sûrement déjà présentée à nous. Et peut-être avons-nous répondu comme l'apôtre. Mais il est à craindre que nous l'ayons dit avec un sentiment bien différent. Si nous avons désiré la mort, cela signifiait, et vous me direz si vous vous identifiez à ça, mais moi ça me parle beaucoup, si nous avons désiré la mort, cela signifiait, je ne sais ce que je dois redouter le plus, ou les afflictions de la vie dont la mort me délivrerait, ou les terreurs de la mort dont la vie me préserve. On peut paraphraser un peu ce qu'il dit. Okay? Il est en train de dire, quand on lit ce verset, notre premier réflexe, c'est de nous dire, je suis tiraillé entre les deux. C'est quoi le pire? C'est quoi le pire? C'est de vivre avec toutes les souffrances que ça implique, ou c'est mourir et renoncer aux 100 choses que j'ai encore envie de faire dans cette vie? C'est quoi le pire? Et voilà comment il termine. Il dit, autrement dit, la vie et la mort nous apparaissent comme deux choses mauvaises dont nous ne savons pas lequel est le pire. Quant à l'apôtre, elles lui apparaissent comme deux biens immenses dont il ne sait pas lequel est le meilleur. Voyez, le dilemme, c'est ce que Adolphe Monod nous dit ici, le dilemme de Paul, qui est pressé entre deux choses, un peu comme un tube de dentifrice. Le dilemme de Paul, c'est pas qu'il est moyennement tenté par la vie et moyennement tenté par la mort. C'est pas que, comment dire, le dilemme de Paul, c'est pas que la vie et la mort sont deux choses qu'il aimerait éviter à tout prix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le premier réflexe qu'on pourrait avoir en lisant ce verset. Le dilemme de Paul, c'est pas que la vie et la mort sont deux choses qu'il aimerait éviter à tout prix. Parce que vivre, ça implique beaucoup de souffrance. Et que mourir, ça nous empêche d'accomplir tous les projets et toutes ces choses qu'on a encore tellement envie de faire. Non, son dilemme, c'est que la vie et la mort sont pour lui deux biens immenses. Et qu'il ne sait pas lequel choisir. C'est pas lequel choisir entre les deux. Personnellement, il préférerait mourir. La mort est un gain. Ça peut nous surprendre un peu, n'est-ce pas? La mort est un gain. Mais il faut comprendre que Paul se réjouit pas de la mort en elle-même, mais de ce qui suit, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit au verset 23. Regardez le verset 23, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Voilà pourquoi Paul peut dire que la mort est un gain. C'est parce que la mort, pour lui, c'est comme on pourrait dire ce serviteur lugubre qui nous fait entrer dans un palais, qui nous enlève nos vieux habits sales et usés, qui nous revêt d'un habit resplendissant avant de nous laisser entrer dans la présence du roi de gloire. C'est comme ça que Paul voit la mort, l'entrée dans la présence de Christ. Voilà pourquoi Paul peut dire la mort est un gain. Mais il fixe ses regards sur le présent et il poursuit en disant À cause de vous, verset 24, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, que je demeure ici-bas. Voyez, la raison pour laquelle Paul est tiraillé entre les deux, c'est pas qu'il a encore ces 100 choses qu'il a envie de faire avant de mourir, mais la raison pour laquelle il a envie de rester ici-bas se trouve dans ces mots, à cause de vous. Je veux vivre pour voir le progrès de l'évangile dans le cœur des autres et qu'ainsi Christ soit glorifié. Donc vous voyez, c'est pas que Paul, d'un côté, veut s'en aller pour être avec Christ parce que c'est ça qui est le meilleur, mais que d'un autre côté, il veut vivre encore tout ce que ce monde a à lui offrir, ce qui est probablement la manière dont nous avons tendance à lire ce verset. Ah oui, je veux m'en aller être avec Christ, parce que c'est ça qui est le meilleur. Mais pour l'heure, il y a encore tellement de choses à vivre. Avant de mourir, je veux... Trois petits points. Si vous deviez terminer cette phrase, qu'est-ce que vous diriez? Certainement, vous serez d'accord avec moi que toutes nos manières de terminer ces phrases ont un peu tendance à être centrées sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais Paul ici dit, vivre, c'est Christ. Autrement dit, vivre, ce n'est pas moi. Vivre, c'est Christ. Avant de mourir, je veux glorifier Christ dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. J'aimerais terminer en vous laissant avec deux questions. La première, c'est qu'est-ce que vous diriez? Comment est-ce que vous termineriez cette phrase? Honnêtement, avant de mourir, je veux. Comment est-ce que vous termineriez cette phrase? C'est la première question. La deuxième question que j'aimerais vous laisser, c'est qu'est-ce qui vous empêche de terminer cette phrase comme Paul a terminé cette phrase? Qu'est-ce qui vous empêche de répondre comme Paul a répondu? Y a certainement plusieurs raisons, mais à mon avis, la raison principale, que je discerne en tout cas dans mon cœur, c'est que si je ne suis pas prêt à répondre, à donner la même réponse que Paul et à terminer cette phrase comme Paul, c'est parce que je n'ai pas bien compris qui est Christ. Qui est Jésus-Christ? Et c'est pour ça que dans les versets qui suivent, dans les chapitres qui suivent, Paul va parler de qui est Christ, Dieu lui-même, qui n'a pas considéré sa nature divine comme quelque chose à utiliser pour son propre gain, pour son propre intérêt, mais qui s'est humilié et qui a pris sur lui-même la nature d'un esclave et qui a obéi jusqu'à la mort. Voilà les deux questions qu'il est important qu'on se pose. Avant de mourir, je veux. Comment est-ce que je terminerai cette phrase? Et qu'est-ce qui m'empêche de terminer cette phrase comme Paul l'a terminée? Et que nous puissions alors, j'espère, dire honnêtement et avec joie, ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen.
Nous allons répondre à ce que nous avons entendu par un chant dans le carnet. C'est toi, Jésus.